Interruption. Donc Nader, tu étais en train de nous expliquer que les ouvrières de Fushana avaient lutté, avaient obtenu la réintégration de nombreux salariés après l'édition de la direction, mais il y en a quatre qui restaient encore non réintégrables, dont les deux déléguées syndicales principales, qui
Ça,
sont
c'était
Sonia
après
Djebali et
la
Monia
trêve
Dridi.
générale locale de Fushana du mois de mars.
Ok. Et donc depuis, elles ont lutté pour obtenir la réintégration. Et qu'est-ce qui s'est passé alors?
Bon, ce qui s'est passé, c'est que elles ont opté pour la grève de la faim, puisque les autres moyens de protestation au sein de l'usine n'étaient pas accessibles à elles, puisque ça faisait très longtemps qu'elles étaient licenciées. Et comme le code de travail tunisien, il limite beaucoup le champ d'action des syndicalistes, il n'y avait pas beaucoup de moyens légaux de mener la lutte au sein de l'usine. Donc elles ont opté pour la grève de la faim.
Et donc, qui s'est mis en grève de la faim à ce moment-là? Parce qu'il n'y a pas que à la télé que j'ai l'impression.
Alors oui, la télé qui ont décidé d'entamer la grève de la faim. Ensuite, elles ont été suivies par des syndicalistes de la société française Léman Industrie, alors qui est à peu près dans la même situation, qui a licencié les cinq représentants, les cinq délégués syndicaux UGTT de l'usine, et qui était concerné également par les négociations suite à la déclaration de la grève générale locale à Fushana, et pour lesquels il n'y a pas eu de solution. Pourtant, leur employé avait promis de les réintégrer sous 15 jours. Alors, il n'a pas fait, le patron de Léman Industrie. Alors, eux aussi, ils ont rejoint la grève de la faim pour revendiquer leur réintégration.
D'accord. En fait, donc, contrairement à ce qu'on nous dit hein, dans quelques médias, notamment Le Monde, c'est pas quelque chose d'isolé à quelques ouvrières qui serait trop radical, mais c'est un mouvement qui, j'ai l'impression, dépasse simplement le cadre d'une seule usine, et c'est une situation qui se trouve dans ailleurs aussi.
Ah oui, partout en Tunisie, depuis la fuite de Ben Ali, des syndicats se sont montés, les ouvriers ont profité du peu de liberté qu'ils ont gagné, et ils se sont organisés en syndicats. Et depuis, le patronat s'est organisé aussi, et plus particulièrement le patronat français et étranger en général. Et ils essayent depuis 2 ans de liquider tous les nouveaux syndicats qui se sont créés. Des licenciements de syndicalistes, c'est quelque chose qui malheureusement arrive tous les jours en Tunisie.
Et alors, dans le cas de Sonia Djebali et sa collègue qui a maintenu la grève de la faim la plus dure, est-ce que tu peux me donner son nom?
C'est Ouda Telji.
Telji, qui elle vient de Lehman Industries.
Non, elle vient de la Télec.
De la Télé aussi, d'accord.
Alors, de Lehman Industries, il y a un syndicaliste qui s'appelle. Pardon, j'ai oublié son nom.
Tu nous le retrouveras d'ici la fin
Oui.
d'interview. Donc en tout cas, voilà, ils étaient au total combien à faire cette grève de la faim?
Ils étaient trois à faire la grève de la faim. Bon, la grève de la faim a commencé par un sit-in aussi. C'était pas seulement une grève de la faim, ça a commencé par un sit-in à l'inspection de travail, en compagnie il y avait les quatre concernés de la Télec, plus les cinq concernés de Léman Industrie,
D'accord.
et il y avait des soutiens, des militants de différentes organisations et de la société civile qui se sont installés avec les grévistes dans le couloir de l'inspection générale de travail de Tunis jusqu'à ce qu'ils soient expulsés par la police 5 jours plus tard.
C'était quand ça?
C'était fin juin.
D'accord.
Fin juin. Alors, une fois expulsés de l'inspection générale du travail, c'est l'Union générale des étudiants de Tunisie, l'UGET, qui a accepté de les recevoir dans ses locaux.
D'accord, donc ils étaient en grève de la faim dans les locaux du syndicat étudiant tunisien.
Voilà,
D'accord.
voilà.
Et donc, cette grève de la faim a été très dure, très longue. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé?
Alors, c'était effectivement très dur, surtout pour Sonia, parce que Sonia est anémique de base et elle a un traitement aussi pour une autre maladie qu'elle a, un traitement permanent pour une maladie chronique. Et donc, elle n'a pas pu prendre ses médicaments puisqu'elle fait la grève de la faim. On s'est énormément inquiété sur son état de santé. Et elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, mais elle a poursuivi quand même sa grève et elle était déterminée à aller jusqu'au bout.
Comment tu as pu, je pense, discuter avec elle ou ses proches? Comment on en vient à faire une grève de la faim aussi dure et qui mette même en danger on parlait un moment de possibles séquelles à vie. Comment on en vient à se mettre en danger à ce point-là pour des droits qui sont normaux, en fait, qui sont juste le droit syndical et la lutte contre la répression syndicale classique, si je puis dire?
La situation en Tunisie est la suivante. Après la fuite et le départ de Ben Ali, la société tunisienne a pu gagner des droits, notamment au niveau syndical. Et depuis, comme je te l'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si ça a passé à l'antenne ou pas, mais depuis, le patronat s'est organisé aussi pour liquider ces acquis-là. Et donc aujourd'hui, la classe ouvrière tunisienne essaye de sauvegarder les acquis qu'elle a pu arracher après le départ de l'ancien dictateur. Et donc, on se retrouve dans une situation où il faut résister pour pas reculer, en fait.
Alors, on a passé hier un reportage de la radio La Locale, une radio ariégeoise, qui est allée, j'ai l'impression, en Tunisie, ou en tout cas qui a rencontré Monia Dridi, qui est donc la camarade de Sonia, et qui a aussi mis en lumière certaines zones d'ombre, notamment celle du syndicat UGTT au niveau régional, puisque le mouvement qu'ont entamé ces syndicalistes de base n'a, semble-t-il, pas été suivi par des directions syndicales un petit peu frileuses. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé de ce côté-là?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que la direction de l'Union régionale du travail de Benarous n'y croyait plus depuis l'accord du 5 mars. Ensuite, il y a un climat général, il y a ce qu'on a appelé en Tunisie le dialogue national qui était chapeauté par l'UGTT et l'UTICA, qui est le principal syndicat patronal en Tunisie, et qui a permis la mise en place de l'actuel gouvernement dit technocratique. Alors, durant ce dialogue national, il y a eu une sorte de d'entente entre l'UGTT et l'UTICA et le gouvernement que durant la période de transition jusqu'à les élections, les futures élections, il y a une sorte de trêve sociale, quoi. Donc l'UGTT s'est engagé sur cette voie-là, donc elle a été frileuse par rapport au mode de lutte des syndicalistes de la Télec et de l'Aimant Industrie.
D'accord, donc si je résume bien, en fait, c'est tout simplement, il y a eu une entente comme une unité nationale pour la stabilité du pays et donc du coup, pas soutenir et pas entraîner des mouvements sociaux plus forts pendant cette période de transition.
Voilà, et en plus, ils y croyaient pas, les personnes concernés n'y croyaient pas, ils ne pensaient pas que c'était possible d'imposer à la direction de la Télec de réintégrer d'autres salariés, en plus des 5 qui ont été réintégrés en mars.
Et pourtant, hier, on a eu des nouvelles.
Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on a eu comme nouvelles hier? Donc on était, je crois, au 26e jour de grève de la faim, donc là ça devenait vraiment très long.
Oui. Mais... C'est devenu très lent. Et ce qui s'est passé hier est qu'il y a eu une réunion de négociation. Et cette réunion a mené à la conclusion d'un accord qui réintègre Houda et Rachida et qui indemnise Sonia et Monia par une somme assez conséquente.
Donc en gros, des indemnités de départ pour les deux leaders du mouvement et les autres sont réintégrés.
Voilà.
Ce qui est une victoire.
C'est une victoire. Après 2 ans de lutte, le résultat est le suivant. On a 7 ouvrières réintégrées sur 10. Une qui a été, dont la direction a accepté le principe de réintégration, c'est RIM, et qui a choisi de toucher les indemnités. Et les deux syndicalistes, Sonia et Monia, qui ont été réintégrés, plutôt indemnisés hier.
Comme un licenciement syndical où il y a des indemnités de départ plus importantes.
Et... Voilà, beaucoup plus importantes. Et quand on fait le bilan de cette lutte-là, il faut se mettre aussi dans l'esprit qu'il y a un rapport de force sur le terrain. Et ce rapport de force n'était pas favorable à nos camarades syndicalistes. Et pourtant, elles ont su trouver les moyens de faire pression et de poursuivre leur combat jusqu'au bout.
À l'automne dernier, j'avais rencontré Sonia et Monia lors de leur passage à Toulouse, notamment l'invitation du comité de soutien au lutte du peuple tunisien, dont tu fais partie aussi. Et effectivement, à ce moment-là, nous avait parlé d'un soutien très conséquent dans l'usine. 90% des ouvrières syndiquées dans le syndicat UGTT. Après leur retour et les événements de mars, comment ça s'est passé avec les autres ouvrières de l'usine, puisque ce sont en majorité des femmes?
Alors pour la grève générale du 5 mars, l'usine, enfin les ouvrières de l'usine étaient prêtes pour entrer en grève, sauf que la grève a été annulée par l'union régionale suite à l'accord signé le 5 mars. Donc ensuite, pendant la grève de la faim, à partir de la deuxième semaine, les ouvrières de l'usine de la Télec de Fushana ont débraillé quasiment pendant une semaine. Et ensuite, elles sont entrées en grève pendant 2 jours au moins pour réclamer que leurs camarades soient réintégrés.
Donc là encore, comme on a pu le lire dans le Figaro, ce qui était complètement faux, c'était pas 2 ouvrières isolées, il y avait un mouvement derrière, quoi.
Mais voilà, il y avait un mouvement derrière, et au-delà même de l'usine, comme je t'ai dit, il y a des organisations nationales qui ont soutenu cette lutte, comme l'UGET, l'Union Générale des Étudiants de Tunisie, l'UDC, l'Union des Diplômés Chômeurs, la TFD, l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates, la Ligue des Droits de l'Homme, le Forum Économique et Social Tunisien.
Et même au-delà, puisque nous on en a entendu parler, notamment via un article de Pierre Souchon, qui est un peu celui qui avec Fakir a révélé cette affaire en d'autre côté de la Méditerranée, en France, et qui a publié un article, je crois sur Article 11, où il demandait un peu à dire « Réveillez-vous les gars, il se passe quelque chose là en Tunisie ».
Oui, effectivement, oui.
Et donc comment s'organiser la solidarité de l'autre côté ?
Ici en France, tu veux dire.
Oui, c'est ça.
Alors ici en France, il y a le comité de soutien aux luttes du peuple tunisien à Toulouse, dans le Front Populaire et membre, qui a travaillé sur le soutien des syndicalistes de la Télec depuis maintenant un an et demi, on va dire, et qui a poursuivi le travail de soutien, premièrement par des diffusions devant la TQR, par des... diffusion au centre-ville, par des communiqués, des lettres ouvertes, etc. Il y a également la CGT, la TQR, qui a essayé de mettre la pression sur la direction de la TQR, le groupe installé sur Toulouse. Il y a également le comité de soutien aux syndicalistes de la Télé qui s'est formé dès le début de la lutte durant le Forum mondial à Tunis, et qui a poursuivi le travail également par la publication de communiqués et par l'organisation de rassemblements à Paris, etc. Donc il y a effectivement effectivement beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Et ça, ça a amené même des députés et des sénateurs. Enfin, il y a spécifiquement une députée et une sénateur qui ont envoyé des lettres à Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, pour lui demander d'assumer ses responsabilités et de mettre pression sur le groupe, la pression sur le groupe Latécoère pour qu'il mette fin à cette affaire.
La suite des événements, c'est quoi? Parce qu'il y a déjà eu des accords à la télé, notamment pour un monde d'avancée sociale, et la direction, immédiatement après avoir signé, avait finalement changé d'avis, si on peut dire. Donc, comment ça va se passer maintenant, là-bas, pour que Sonia et Monia obtiennent leurs indemnités, et que les autres soient bien formellement réintégrés? Qu'est-ce que c'est l'avenir?
Alors, bon, la réintégration des deux camarades sera effective dès lundi prochain, je crois. Et donc, elles retrouveront leur poste à l'usine, et ça, on verra très bien comment ça va se passer. Et ensuite, pour l'indemnisation, c'est en cours, c'est déjà fait, c'est quasiment déjà fait. Donc, je pense que après toute la couverture médiatique qu'il y a eu en France, après toute la détermination qu'ils ont vue avec Sonia et Monia et leurs camarades, je pense que la direction ne cherchera pas à éviter l'application de l'accord. Ils vont appliquer l'accord, à mon sens. Je pense que c'est...
Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix, non. Ils n'ont certainement pas le choix. Ensuite, en ce qui concerne les conditions de travail au sein de l'usine et le respect du droit syndical, c'est aux camarades qui ont été réintégrés et aux autres ouvrières de s'organiser, chose qui sont en train de faire pour continuer à défendre leurs droits.
Comment va Sonia? Elle qui a été le plus loin dans cette lutte, et tu l'as dit, qui en plus a des problèmes de santé personnelle qui rendent encore plus difficile sa grève de la faim. Comment va-t-elle?
Bon, elle va bien. Elle va bien pour l'instant. Elle sort petit à petit de sa grève de la faim. Tu dois le deviner, on sort pas tout de suite de la grève de la faim.
C'est sûr. C'est pas avec un grand banquet qu'on est rétabli. Il faut aller doucement.
Voilà, il faut y aller doucement. Elle est conseillée par un médecin qui est également syndicaliste et qui les a soutenus durant toute la grève de la faim. Et donc elle et Ouda également, donc pour la sortie de la grève de la faim. Et pour l'instant, elle se repose dans sa famille. Et d'ici quelques jours, elle sera en conférence de presse pour faire le bilan de cette lutte-là.
Très bien. Est-ce que la victoire qui vient d'être obtenue à la Télec, avec la détermination, bon, la personnalité de Sonia aussi, qui est quelqu'un de déterminé, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est propre à ces syndicalistes de la Télec et que c'est une exception, ou au contraire, c'est un exemple qui peut donner lieu à d'autres choses en Tunisie, dans d'autres usines? Donc je pense immédiatement à Lehman Industries, mais aussi à d'autres, que ce soit dans l'aéronautique ou ailleurs. Comme tu le disais au début, il y a beaucoup de mouvements sociaux en Tunisie.
Oui, effectivement, c'est une lutte qui est exemplaire. Elle est exemplaire d'un côté parce que les problèmes que les ouvrières de la Télec ont dû affronter, c'est les mêmes problèmes ailleurs dans les autres usines. C'est que le patronat n'accepte pas l'existence de syndicalistes et n'accepte pas de respecter même le peu de droits que le code de travail tunisien autorise, et ils profitent de la libre circulation des capitaux pour comme ils ont fait à la télé, faire un lockout et délocaliser temporairement en France pour détruire le syndicat local. Donc c'est les mêmes problèmes auxquels la classe ouvrière tunisienne est affrontée. Donc la lutte de la Télec, le combat de la Télec, a permis de démontrer qu'avec un minimum d'organisation et beaucoup de détermination et quelques soutiens internationaux, on peut faire bouger les choses. Et ça nous apprend, nous, ici aussi, qu'avec les moyens que l'on a, on est capable d'apporter un soutien significatif à des luttes sur place, surtout par rapport à des patrons français.
Ce qui est incroyable, c'est que je me souviens de cette scène où on était devant la TCOR pour une conférence de presse improvisée lors de la venue de Sonia et Monia. On était quoi, 10, dont plus 5 journalistes.
Voilà, oui.
Et de voir qu'aujourd'hui ça arrive à une victoire, ça fait quand même sacrément chaud au cœur.
Voilà, il faut en tirer de leçon et dire que l'on peut faire, on peut faire des choses au niveau de la solidarité internationale et que c'est. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut lutter pour pouvoir aboutir à quelque chose. Et ça permet, je tiens à le dire, ça permet d'améliorer les conditions de travail en Tunisie, ça permet aux salariés français également de garder leurs acquis aussi. Parce que ici, ce qu'on utilise comme argument, c'est généralement la compétitivité pour dire, en gros, les salariés français coûtent trop cher, regardez en Tunisie ou ailleurs. Ça coûte moins cher, donc on essaie de grignoter les acquis sociaux des salariés en France. Cette solidarité internationale, elle démontre qu'elle peut être efficace pour maintenir les acquis des salariés sur place, et cela permet aussi de renforcer les acquis des salariés de ce côté-là de la Méditerranée en France.
Si vous permettez une question qui a trait un peu aux échéances politiques, électorales qui vont se dérouler en Tunisie, est-ce que les luttes sociales, les luttes de la classe ouvrière tunisienne vont-elles pouvoir peser sur l'orientation à donner à ces échéances électorales qui vont déterminer en quelque sorte, enfin qui vont signifier la fin de la période de transition et qui vont déterminer le contour institutionnel de la Tunisie les années à venir.
Bon, alors si j'ai bien compris votre question...
La question, c'est le lien entre les luttes sociales, oui, les luttes de la classe ouvrière tunisienne et les échéances politiques électorales. Est-ce que il y a un lien de quelle nature
Est-ce que ça peut se traduire dans les urnes, quoi.
Voilà.
Alors, pour l'instant, y a des organisations qui portent haut les revendications des travailleurs, etc., comme le Front Populaire dans lequel je milite, dans ces rangs je milite. Par contre, ça prendra du temps, parce que vous savez, les partis qui ont été dominants après les élections du 23 octobre de l'Assemblée nationale constituante, c'est des partis, d'un point de vue économique, libéraux, et même néolibéraux. Donc sur la scène publique, le débat, il porte pas essentiellement sur ces aspects-là. Ensuite, il y a eu la vague de terrorisme aussi qui a biaisé le débat également et qui a fait en sorte que les médias se focalisent beaucoup plus sur des affrontements avec des djihadistes que sur des luttes sociales, quoi. Donc il faut beaucoup de travail pour mettre au centre des futures échéances la question sociale. Il faut beaucoup de travail.
Bon, je crois que maintenant, la seule question qui reste, c'est savoir si vous allez faire la fête pour fêter la victoire qu'il y a eu, sans bien sûr baisser la garde avec tout ce qui peut arriver ensuite. Mais est-ce qu'il y aura une fête organisée par le CSLPT à Toulouse ou quelque chose?
Donc, effectivement, on envisage de faire quelque chose. On envisage d'inviter Sonia et Monia, de les réinviter à Toulouse pour fêter la victoire et pour en tirer des conclusions.
Très bien.
Et au CSLPT, ça justifie la raison d'être du CSLPT aussi, et ça nous permet d'essayer de prendre en charge des nouveaux dossiers à partir du moment que la lutte des Latélec a été victorieuse.
Et puis ça fait vraiment du bien et chaud au cœur. Merci beaucoup Nader.
Merci à toi Grégoire.
À très bientôt sur les ondes de Canal Sud. N'hésite pas s'il y a quoi que ce soit.
Merci.
Et on continue tout de suite avec Agalopal, une version de Eyan qui nous réinterprète Paco Ibáñez.